Chapitre 7. Février sévissait sur Walcheren. Il faisait un rude hiver, un de ces hivers comme on en voit dans cette portion occidentale de l'Europe, avec de grands vents librement accourus du pôle, une neige épaisse durcit sitôt sa chute, une gelée tenace de 10 et 12 semaines, figeant les canaux et les étangs, couvrant le pays d'une croûte glacée. Ce qui rend les froids si pénibles, ici, c'est le vent, le libre vent, que rien n'arrête dans sa course à travers l'océan et qui déferle sur la plaine avec une infrangible violence. Cette année, chose rare, la mer avait gelé. Une ceinture de glace encerclait les îles des estuaires et leur faisait une farouche défense. Il avait même fallu faire passer un brise-glace à l'entrée du petit port de Vers. Caroline attendait Domitien, l'espérait plutôt. On était en mardi. Il venait quelquefois, ces jours-là, quand son travail le laissait libre avant le jeudi. Elle était dans la claire petite salle à manger de Winwis, plus blanche que d'ordinaire, parce que la neige qui couvrait la digue projetait au plafond de pâles reflets inhabituels. Elle regardait à travers les vitres la longue bande de mer grise et moutonnante sous le fouet du vent. Et quand elle voyait pointer au loin une voile vers le large, elle tâchait de reconnaître si ce n'était pas la silhouette familière du Zimeu, louvoyant vers le chenal de Vers. Elle avait près d'elle le berceau où dormait la petite domitienne. Elle lui imprimait du pied une oscillation régulière. Et il n'y avait, dans toute la petite maison au bord de l'Osterscheld, que ce bruit doux, ce craquement léger et rythmé du berceau. Caroline s'ennuyait dans ce silence. Cette mer rude, ce ciel plus âpre, à l'approche du soir, avait quelque chose de triste. Elle regardait, au pied de la digue plantée d'une triple rangée de courts pilotis hérissés, les longues et lourdes lames grises, aux sauvages crinières blanches, déferlées contre les blocs de glace, y crachaient une écume mousseuse, y creusaient des cavernes, avec de sourdes et lointaines détonations. La glace craquait par places, se brisait comme un bois sec qui casse, ou bien s'écrasait, bloc contre bloc, avec de sinistres gémissements. Et la mer, un instant, se retirait jusqu'au prochain assaut, laissait à nu ce hérissement de dents blanches et fracassées, qui gardait encore, comme la laine arrachée d'une toison, des lambeaux d'algues vertes et des flocons d'écume. Elle avait passé tout l'hiver à Winwis. Elle y était venue avec l'enfant en sortant de chez Mademoiselle de Grenne. Elle y vivait heureuse, n'ayant en tout que les visites de Domitien qui venait le jeudi, d'ordinaire, pour repartir le samedi, et la compagnie intermittente de Maria Van Osland. Celle-ci arrivait chaque matin ou bien envoyait ses enfants. La petite domitienne grandissait, atteignait ses 6 mois et absorbait toutes les minutes de Caroline. Domitien ne viendrait pas aujourd'hui. Après un dernier regard sur la mer, Caroline, en soupirant, s'était levée pour aller fermer les volets et les portes parce que le soir tombait. Elle eut une idée tout à coup. Elle se rappela que, quelquefois, le Zimeu, arrivé trop tôt, attendait 1 heure et plus la marée devant l'écluse de Vers. Qui sait s'il n'était pas passé, déjà, avant que Caroline ne fût venue à la fenêtre. La marée n'était pas encore étale. Caroline, en se penchant, vit le niveau du flot à 1 bon mètre au-dessous de la ligne noire qui marquait le sommet du flux. 1 heure encore, au moins, à attendre. Et si Domitien était là, compte tenu du chemin à faire à pied de Vers jusqu'ici, il n'arriverait pas avant 2 grosses heures. Caroline hésita une seconde, puis se décida. Elle prit un châle, un manteau, en mitoufla la petite domitienne dans une grande pèlerine et sortit. Il y avait, un peu avant Vers, une éminence sur la digue, du haut de laquelle on distinguait le petit port et toute l'espèce de golfe que forme là l'Osterscheld jusqu'aux îles de Beveland et de Schouwen. Caroline traversa le jardin, suivit la route sur la digue, une longue piste blanche de neige durcie qui dominait la mer à gauche et les champs à droite et que le vent prenait en écharpe. Il faisait très froid. Caroline a marché vite pour être rentrée avant la nuit. Et comme Domitien était lourde, elle avait chaud tout de même. Elle atteignit la butte, s'y arrêta, chancelante et si violemment assaillie par la bise qu'elle devait se pencher en arrière pour garder l'équilibre. De là, elle voyait vert, un petit village noir et blanc sous la neige, comme sous une lourde couverture d'ouate, avec des cheminées fumantes et des fenêtres qui rougeoyaient au ras des terres feutrées de blanc. Le clocher, un vieux clocher à flèches bulbeuses, couverte de feuillards de zinc blanchis par l'air salin, s'érigeait sur cette tranquillité. Pas une barque en vue. Plus près, entre le village et la digue où Karelina se tenait, une série de pâturages coupés de haies noires, envahis d'une eau vitrifiée et qui luisaient sous des poils d'herbe rare, avec de pâles reflets d'acier. Un grand moulin tout neuf, toit d'ardoise, tout rond de couleur de craie et grandes ailes brunes ajourées, tournaient dans le soir et faisaient penser, sans qu'on sût pourquoi, à une grande créature vivante. Au pied du moulin descendait un chemin en pente. Là, sur la neige, de petits bonshommes en mitouflés, garçons ou filles, en gros sabots, le bonnet sur les oreilles et le cache-nez volant, s'exerçaient à des glissades et poussaient de vieilles caisses ou de petits traîneaux. Tout cela sur un fond extraordinaire, un fond de neige blanche teintée de mauve dans le crépuscule et d'une couleur que l'imagination ne saurait créer. On évoquait irrésistiblement les tableaux de Bruegel le drôle, les patineurs au nez violacé, engoncés dans leur lainage, les maisons tapies sous la neige, fumantes et piquées de feu rouge, dans le soir. Karelina, un peu triste, avait fait demi-tour. Elle revenait vers Windwis, moins vite maintenant, luttant contre le vent. La nuit tombait. Windwis, sous ses peupliers droits et sveltes, n'était plus qu'une ombre tassée. Karelina en approchait, quand, derrière elle, un pas rapide sonna sur la croûte de neige dure. Elle se retourna. Une silhouette approchait, vite. C'était un homme très grand. Il marchait si rapidement qu'il semblait courir. Il venait droit sur Karelina. Elle eut un pressentiment brutal. Sans raison, elle fit demi-tour, elle courut vers Windwis. Elle en était à 300 mètres. Elle se hâtait de toutes ses forces. Mais le sol était glissant et la petite la gênait. Derrière elle, les pas se rapprochaient. Moite, les membres défaillants, elle avait l'impression de vivre un cauchemar. Elle retourna la tête une fois. L'homme n'était plus qu'à 50 pas. Un sursaut la jeta en avant. Elle atteignit le portillon du jardin, l'ouvrit, s'élança dans l'allée. La minute d'après, elle était dans sa cuisine, à bout de souffle, effondrée sur une chaise, à demi-morte d'épouvante. Elle reprit haleine, se leva, alla regarder derrière le rideau. Sur la route, la silhouette arrêtée hésitait. Elle eut un cri de désespoir. « C'est lui ! C'est lui !» Elle jeta autour d'elle un regard affolé pour chercher du secours. « Rien ! Elle était seule. » Gomard Joens, une minute, resta encore sur la route à regarder les alentours avec circonspection. Puis il se décida, poussa le portillon et entra dans le jardin. Il fit le tour de la maison, repassa devant la fenêtre de Karelina, si près qu'elle se rejeta instinctivement en arrière. Et il atteignit la porte du corridor. Il sonna. Une fois, deux fois. Karelina, pétrifiée, attendait le souffle suspendu. De nouveau, le pas pesant fit craquer la neige. Il revenait. Il s'arrêta devant la porte de la cuisine, tourna en vain la poignée, frappa du poing, jura. Et brusquement, à travers la vitre de la fenêtre, Karelina aperçut son visage tout près. Il la voyait. Il eut un sourire sinistre et d'un coup de poing fracassa la vitre. Puis sa main chercha l'espagnolette et d'un bond, il fut dans la cuisine, devant Karelina. Il ne parlait pas, il ne s'inquiétait pas de Karelina. On eût dit qu'il savait qu'elle ne pouvait rien faire, qu'elle était déjà retombée en servage, sous l'emprise de la même terreur qu'autrefois. Il ouvrit la porte du vestibule, tendit l'oreille vers l'escalier, n'entendit rien et passa dans la salle à manger dont il fit le tour. Rassuré, il s'assit près de la fenêtre, sur la chaise qu'occupait Karelina tout à l'heure, et lécha son poing saignant. De temps en temps, il levait les yeux vers sa femme sans dire un mot. Tout à coup, il aperçut le berceau, derrière lui, dans l'encoignure. Il se leva, s'approcha, souleva la couverture qui cachait le visage de l'enfant et le regarda. Puis il regarda de nouveau Karelina, rit encore de son rire muet, fit trois pas, de long en large, eut un haussement d'épaule. Enfin, revenant à Karéline, « Habille-toi » dit-il. Elle demeurait stupide devant lui. « Habille-toi » répéta-t-il. Elle ne bougeait pas. Il eut une contraction terrible des sourcils. Et prenant un manteau sur une chaise, il lui jeta d'un air si farouche qu'elle prit le vêtement. « Que veux-tu de moi » souffla-t-elle. « Rien, t'emmener. On prend le bac ce soir pour Zérikizi. On part pour Rotterdam. Ça te va ? L'autre viendra t'y chercher s'il te retrouve. » Elle fit un geste de révolte. « Vas-tu te dépêcher ? Je ne m'en irai pas d'ici. Tu t'en iras. Je ne m'en irai pas. » Elle n'avait plus peur. « Tu me tueras si tu veux, je ne partirai pas. Tue-moi plutôt. » « Pas si bête. Te tuer, je pouvais le faire si facilement sur la route tout à l'heure. Et l'autre, à Anvers, je l'ai tenu 10 fois au bout de mon outil. Non, je veux vous embêter. Depuis 2 ans, c'est bien mon tour. Et tu verras si je m'y connais. Tu vas me suivre. Tu ne reviendras plus ici. Tu ne le reverras jamais. Tu es à moi. Je ne te lâche plus. » Il la vit prête à résister. « Et si tu ne viens pas à moi tout de suite, continua-t-il, je te jure le tonnerre de Dieu que je prends celui-ci et que je le flanque au bas de la digue. » Il fit un pas vers le berceau. « Gomard » cria-t-elle, « Gomard !»« Alors tu te décides ?» Elle se jeta à ses genoux. « Gomard, laisse-moi, laisse-moi, par pitié !» Elle se traînait à ses pieds. « Gomard, je t'en supplie, laisse-moi !» Elle embrassait sa main, la mouillait de larmes. « Femelle !» dit-il. Il la repoussa d'une gifle, l'envoya sur le tapis, où elle resta étendue, sanglotante. « Vas-tu te relever ? » cria-t-il en la frappant du pied. Elle se releva. Il lui tendit un châle. « Vite, bon Dieu !» Il lui jeta le châle sur les épaules. « Ton gosse !» Elle le regarda, l'air hébété. « T'as compris ? « Faut aussi que je l'habille moi-même, ça sera vite fait. » Elle courut au berceau avant lui, prit la petite, l'enveloppa dans une couverture en sanglotant. « En route, » dit-il en ouvrant la porte sur les ténèbres. Elle eut un dernier sursaut de révolte et de désespoir. « Je ne veux pas partir, je ne veux pas, tue-nous !» Mais il la jeta dehors d'une poussée. Ils prirent le chemin de verre. Karéline a marché comme une somnambule. Derrière elle, Gomard disait « On prendra le bateau à verre pour Zérikizi. De là, le train pour Bergen et Rotterdam. Ne pense pas à me glisser des mains ou bien je te prends le gosse et je l'étrangle comme un pigeon. T'es prévenu, tâche voir de ne pas nous faire remarquer. » Elle avançait sans répondre. Il poursuivait « Tu te dis peut-être que ce n'est pas loin, Rotterdam. Sois tranquille, on n'y fera pas de vieux os. J'ai un engagement pour nous deux, toi lingère, moi steward, sur la princesse Cécilie, pour les Antilles. Une fois en Amérique, on verra s'il faut courir plus loin ou si tu te tiens tranquille. J'ai pensé à tout. » Elle ne disait rien. Elle avançait péniblement sur la neige glissante dans la nuit. Le chemin lui semblait interminable. Elle ne savait même plus où elle allait. Gomard, lui, goûtait sa vengeance. « Voilà 2 ans que j'attendais ça. Tu m'aurais vu plus vite si je n'avais pas fait 8 mois de tôle. Hein ? Tu croyais avoir la paix ? Qui diable penserait à venir te chercher à Walcheren ? Pauvre agneau, si tu savais comme ça a été facile. J'ai eu qu'à le pister, ton protecteur, il m'a montré la route. Étiez-vous gentils, tous les deux, en famille ? J'en rigolais, ma parole. Il y a des fois, tout de même, où je n'ai pas été loin de vous descendre. » « Allons, grouille-toi, on va manquer le bac. » On arrivait à Verre. Gomard prit Karéline par le bras. « Arrête !» Il fixa sur elle un regard dur. « On va traverser le village. J'ai mon feu dans ma poche. Tu resteras près de moi. Si tu dis un seul mot, si tu bouges une patte, le gosse d'abord. Compris ? Marche et sois sage !» Ils entrèrent dans le village, pauvrement éclairé par quelques becs de gaz ou les vitrines d'une ou deux épiceries. Il faisait trop froid, il n'y avait personne dehors. On allait arriver au port. On suivait la petite rue où habitaient les Van Osland. On passerait bientôt devant leur maison. Les Van Osland. Insensiblement, Karéline avança de biais, comme s'il était naturel de traverser la rue pour se rendre au port. Gomard était sans méfiance. Brusquement, Karéline a fait volte-face et se sauva. Il s'était retourné. Il la vit qui se précipitait dans l'avant-cour précédant une petite habitation. Il courut derrière elle. Déjà, elle était à la porte et pénétrait dans la maison. D'un bond, il entra dans une petite cuisine propre et gaie qu'éclairait une grosse lampe à pétrole en cuivre jaune et en verre coloré. Trois ou quatre personnes y soupaient.
« Maria ! Maria ! Au secours !» cria Karéline.
Tout le monde s'était levé en tumulte. Gomard, fou de rage, cherchait son revolver. Mais la grande Maria était femme de tête. Elle avait dû deviner tout de suite. Déjà, elle était sur l'homme, le bousculait d'une telle bourrade qu'il vacilla. Et Joris, le fils aîné, lui lançait la grosse lampe en plein visage, tandis que, par la porte ouverte, Maria hurlait au dehors, dans la nuit,
« Brand, Brand, help! Au secours, au feu !»
Gomard, arrosé de pétrole enflammé et assailli dans la demi-obscurité, avait réussi à empoigner Joris. Ils roulèrent à terre. Mais le jeune homme était souple. Il put échapper à son adversaire, sur la tête duquel, par derrière, Maria, armée d'un sabot, frappait à tour de bras en hurlant
« Help! Help !»
Des gens accouraient. Gomard se releva. Il comprit que la partie était perdue. On allait l'entourer, l'arrêter. Il écarta d'un revers de main la grande Maria qui revenait à la charge, gagna le jardin et disparut dans la nuit.